Bienvenue encore à chacun d'entre vous. Un temps exceptionnel aujourd'hui du fait de nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser dans quelques instants, très bientôt même. Et avant de partager cette parole, j'aimerais me tourner vers vous, alors surtout vous qui êtes là, parce que ceux qui sont en bas et qui nous entendent aussi, je les connais pour la plupart, si ce n'est tous. Mais de vous qui êtes là, ici, combien, je vous demande juste de lever la main, on ne va pas passer le micro pour faire la présentation, ça pourrait être sympa, hein, mais ça risque de prendre un peu de temps. Combien de vous sont aujourd'hui exceptionnellement venus pour être là pour l'un des futurs baptisés? Je vous demande juste de lever la main un petit peu comme cela. Merci à vous. Gardez la main levée, gardez la main levée. Les vieux réflexes de prof. Parmi ceux qui ont levé la main, ceux qui ont pour habitude ou connaissent une église, je vous invite à la baisser. Autrement dit, gardez la main ceux qui peut-être aujourd'hui viennent plus exceptionnellement dans une église comme celle-ci et n'ont peut-être pas encore trop l'habitude de nos us et coutumes, de nos langages, de nos manières de parler, etc., etc. Merci. Vous pouvez aussi baisser votre main. Soyez encore, et comme je l'ai dit juste avant, les bienvenus chacun d'entre vous. Vient ce temps particulier qu'on appelle prédication, on va essayer de le dire plus simplement, où nous ouvrons ce livre, un vieux livre, mais un livre qui pour nous est si fondamental, si important, parce qu'il continue de nous dire des choses importantes à propos de Dieu et de nous, et dans sa relation avec nous. Ce livre qu'on appelle la Bible, et ce que nous allons faire maintenant, c'est de l'ouvrir, de la lire, et surtout de la partager, d'essayer d'en comprendre juste un petit récit pour nous aujourd'hui, dans ce que cela peut signifier encore aujourd'hui dans nos vies. En ce jour particulier, où justement, les jeunes frères et sœurs, terme que nous employons, vont professer tout à l'heure, alors qu'ils commenceront à mettre leurs pieds dans l'eau, devant vous, leur attachement à Jésus, à celui que nous appelons aussi notre Seigneur, par le geste symbolique de ce baptême d'eau. Pour ceux qui sont là où vous le voyez mieux, pour ceux qui sont là ici peut-être un peu moins, mais il y a juste là un grand bain avec de l'eau qui les attend. Il m'a semblé intéressant d'aller lire le récit de la rencontre entre Jésus et un certain personnage qu'on appelle Nicodème, un homme pieux, un membre de l'un de ces mouvements religieux d'antan, d'un mouvement très fervent au sein du judaïsme qui était présent en Israël au début de cette ère. Ce Nicodème, cet homme religieux, cet érudit, un sage au sein de son peuple, brûlait d'un désir fort. Aller parler à ce mystérieux Jésus qui commençait à faire entendre et parler de lui, dont l'enseignement commençait à se répandre et était différent, rafraîchissant, si profond même qu'il attirait des foules à lui par la teneur de ses messages et des bienfaits qu'il offrait d'ailleurs aux gens qui venaient le voir. Mais voilà, bien qu'aller à la rencontre de ce Jésus n'avait rien de compliqué en soi, il était accessible, il n'y avait pas de garde du corps à l'époque, hein. Même si certains déjà voulaient le mettre à mort. Mais pour Nicodème, en raison de ses origines, en raison de ce qu'il est, et en raison de la controverse au sujet de Jésus, qui courait déjà à propos de lui, dans les rangs de sa famille religieuse, où certains avaient du mal avec lui. Lui, Nicodème, voulait parler avec ce Jésus, mais de le faire pouvait nuire à sa réputation et compromettre sa position. Aussi, il eut une idée. Il alla le voir, mais à un moment où beaucoup se mettent à dormir, en pleine nuit. Et c'est là où il espéra étancher sa soif de mieux le connaître. Or c'est là où nous ouvrons maintenant cette Bible, nous allons le faire dans un des évangiles les plus accessibles, les plus connus, l'évangile dit de Jean. Et je vous invite, pour ceux qui le veulent, alors soit, parce que vous en avez une avec vous, d'ouvrir votre Bible, pour ceux qui, plus simplement, ont un smartphone avec l'appli qu'ils ont l'habitude d'utiliser, n'hésitez pas, c'est en Jean 3, et puis pour tous les autres, vous verrez juste à côté, Jean chapitre 3, les versets 2 à 8, vous verrez le texte s'afficher dans la même traduction que celle que je vais lire maintenant. Donc Jean chapitre 3, les versets 2 à 8. Le premier verset, je viens déjà de le paraphraser. Alors, j'attends juste qu'il s'affiche, que nous puissions tous le lire ensemble. Là aussi, la technique va nous permettre de le faire dans un instant. Au pire, je commence et suivre. Voilà, merci. Lisons et écoutons surtout. Donc le « il » ici, c'est Nicodème. « Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? » s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Et nous arrêtons là notre lecture. Là encore, des termes parfois étonnants que l'on va s'efforcer non pas seulement de comprendre, mais d'en voir le sens pour nous aujourd'hui. Et de cet échange entre Jésus et ce maître religieux, au premier abord, nous percevons le profond respect de ce Nicodème quand il vient voir Jésus. Nicodème vient devant lui et voit en lui un homme envoyé par son Dieu, ce que parfois d'ailleurs on appelle autrefois un prophète. Mais franchement, par la suite, et ce que vient à dire Jésus est quand même chelou. Permettez-moi le terme, je suis vieux, hein. Mais la réponse de Jésus, honnêtement, elle tombe des nues. D'où elle vient ? Jésus n'est pas dans un dialogue, là. Il balance un truc qui ne sort de je ne sais où. Rappelez-vous ce qu'il lui dit juste après. Je crois que le texte est encore là. Il lui dit, après avoir été gentiment salué, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais d'où lui sort une telle question ? D'où lui sort une telle affirmation ? Jésus, en gros, change carrément de sujet. Il n'entre pas vraiment dans un dialogue où, quelque part, on se congratule, se salue, etc., etc. Pourquoi Jésus se permet-il d'entrer de jeu, de basculer sur toute autre chose ? Est-ce que ce Jésus, c'est ce genre de gars trop souvent à côté de la plaque ? Vous savez, vous commencez à discuter avec quelqu'un, puis tout d'un coup, il vous parle d'autre chose. Alors vous, vous avez envie de parler de ça. Et ce gars-là, il vous parle de quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis vous rentrez dans son sujet et puis il va parler d'encore autre chose. Là, en général, vous avez envie d'arrêter et de partir. Alors, est-ce que Jésus est de cela ? Peu probable. Bien au contraire même, Jésus perçoit en Nicodème un homme à la recherche d'une vérité profonde. Et c'est bien pour cela qu'il ose cette annonce, cet enseignement d'une réalité nouvelle pour son visiteur d'un soir. Cet homme, Nicodème, qui est venu le voir, aspire à grandir spirituellement. Et Jésus, lui, parce qu'il le connaît mieux encore, le devance. Nicodème n'était point venu pour aller si loin, certainement. Il espérait sans doute un petit quelque chose, comme un petit pas, une petite annonce, une petite parole, qui soit au bénéfice de sa vie, dans sa vie spirituelle, en allant voir ce grand homme, ce Jésus, dont l'enseignement, les paroles étonnent tant. Mais Jésus, lui, se permet et ose carrément de lui proposer un grand pas. Il lui donne l'occasion d'entendre la bonne nouvelle, de connaître même, alors là, excusez-moi pour l'expression, mais le mystère du royaume de Dieu. Il lui montre quelle est la porte. Alors certes, Jésus semble aller vite en besogne, en prenant au dépourvu ce pauvre vieux Nicodème. Et je me permets de regarder à chacun de nous et de commencer ici quelques questionnements. Je ne vais pas aller trop loin, mais pour nous, qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Où en sommes-nous dans les réponses que recherchons quant à notre existence, dans notre quotidien, quant à nos lendemains, qui chantent ou déchantent d'ailleurs ? Nicodème, malgré qu'il était malvenu pour lui, en raison de sa position, de sa stature, de sa fonction même d'aller voir Jésus, La plupart de ses compères ne l'aimaient pas trop, ce Jésus. Il a eu quand même l'audace d'aller le voir, certes de nuit. Il privilégia de le faire avec discrétion, mais lui, Jésus, se tient toujours prêt, nuit comme jour. Et pour nous tous aujourd'hui, même si ce Jésus-là n'est plus sur cette terre, pour ceux qui partagent une même foi que nos quatre baptisés, nous savons qu'ils seront toujours disponibles. Car certes, un jour, il fut mort. Il mourra même d'une manière odieuse, à une croix. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup d'églises, si ce n'est toutes, vous trouvez toujours une croix quelque part. Il est mort à une croix, mais pour nous, il est ressuscité. Et il vit à jamais. Et nous savons, et nous croyons qu'il est possible aujourd'hui, maintenant, comme demain, de venir lui parler simplement en s'adressant à lui, en l'interpellant, même dans un lieu reculé, dans un lieu secret. Rien ne l'interdit, tout est possible avec lui. Alors Nicodème, lui, parce qu'il avait la chance de pouvoir le voir en chair et en os, l'a fait à un autre moment. Mais de parler à Jésus, même si nous ne le voyons pas, et tout à l'heure cela a été témoigné, c'est cela aussi qu'on appelle la prière. Alors on peut faire des prières comme vous en avez entendu tout à l'heure, parfois avec des expressions que nous ne comprenons pas toujours. Mais s'adresser à lui, c'est simplement lui parler, comme si c'était une personne qui me connaissait, et il vous connaît. Lui dire ce que nous avons à cœur, lui remettre des choses et lui dire franchement ça, j'en peux plus. Est-ce que par hasard, tu peux me montrer ou m'aider ? J'arrête là sur cette première interpellation, mais après avoir dit cela, et après vous avoir invité peut-être à oser faire comme Nicodème, allez le voir, même si ça doit être de nuit, en secret, en cachette, je me dois de vous avertir d'une chose, une simple chose. Attention. Attention, car comme pour Nicodème, oser aller vers Jésus, s'intéresser à lui, vouloir lui parler avec sincérité, peut vous amener à quelque chose de surprenant, à être chamboulé. Jésus, cet homme qui n'était pas comme, mais qui est homme, qui était et qui l'est toujours, a toujours le don de viser juste, de vous amener sur le champ d'une discussion plus vraie, plus profonde, car il vous connaît mieux que vous-même. Il connaît déjà vos besoins, les plus profonds, même ceux peut-être dont vous ne soupçonnez pas encore la nécessité. Il désire que vous veniez à le connaître lui, à vous lier à lui, tel un ami, tel un compagnon de route, tel un soutien, tel ce dont vous avez besoin le plus aujourd'hui. Et en cela, il pourra vous surprendre. Il pourra vous inviter à vous ouvrir, à vous confier davantage. Mais surtout, entendez bien, toujours il vous respectera. Toujours il vous fera connaître sa bienveillance et son amour. Et je crois que tout à l'heure, nous l'avons aussi entendu dans certains des témoignages qui nous ont été offerts. Et c'est bien cela qu'il veut manifester à ce cher Nicodème, dans le temps de ce récit que nous avons lu. Nicodème, cet homme de savoir, cet érudit qui n'avait que, à ce moment-là, très peu de compères parmi ses contemporains pour l'égaler, pour ce qui concerne les choses de l'esprit et de la foi. C'était un docteur, quelqu'un de savant au sein de la religion, au sein du judaïsme. Et pour autant, lui, l'érudit, semble perdu face à ce que Jésus vient de lui annoncer. Naître de nouveau, chose infaisable. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Remarquez que, bien qu'étonnant au départ, dans ce qu'il annonce, dans cette première parole-là que nous avons reprise tout à l'heure, Jésus ne cherche surtout pas à perdre cet homme venu le visiter. Bien au contraire, il s'efforce, après l'effet premier de cette annonce, de le conduire vers la vérité qu'il vient de lui annoncer. Il prend le temps, et pourtant c'est la nuit, peut-être qu'il avait envie de se reposer. Mais bon, voilà, Nicodème se pointe, alors on va faire quelques heures sup. Je ne suis pas sûr que Jésus le disait ainsi. Mais tout de même, il prend le temps. Et il lui fait comprendre ce que signifie ce qu'il appelle « renaître d'en haut ». Cette expression étonnante qu'il a employée précédemment et qu'il reprend maintenant pour lui donner sens. Et Jésus est comme cela avec chacun d'entre nous. Jésus n'a de cesse de se faire pédagogue, d'expliquer à Nicodème comme à nous le projet de vie qu'il veut nous offrir généreusement, gracieusement. Et ce qui semble impensable à Nicodème, parce que lui, il le réfléchit, il se dit, mais comment moi, qui suis grand, vieux, etc., je peux retourner dans le ventre de ma mère? Et peut-être que sa mère n'est plus de ce monde, d'ailleurs. Peu importe. Mais ce qui semble impensable à Nicodème étant lié à la mauvaise compréhension qu'il a, qui s'arrête d'ailleurs à l'idée d'une naissance biologique. Je suis homme, je suis né comme tous, mais ce que tu me demandes là me semble complètement bizarre. Si ce n'est chelou. Voilà, vieux mot. Il n'en a pas encore saisi l'importance. L'importance de naître ou de renaître d'en haut. Expression que Jésus a choisie. Et d'ailleurs, à la décharge de Nicodème, qui ne comprend rien, et pourtant c'est un sage, un gars savant, Jésus use d'une expression qui se veut volontairement ambiguë, car elle peut se comprendre de deux manières, ce qui se traduit ou se lit parfois « renaître d'en haut ». Première manière de la comprendre, alors ça y ressemble beaucoup, mais il y a une petite nuance, « naître de nouveau ». Le sens retenu d'ailleurs par ce cher Nicodème, et qui pointe donc vers l'idée d'une naissance à nouveau, d'une sorte de régénération, chose difficile à penser, bien évidemment. Surtout quand on l'imagine seulement au sens biologique de la chose. Est-ce qu'il y a des médecins dans l'Assemblée? Je crois que oui, pour quelques-uns, mais si quelqu'un sait comment on peut y arriver aujourd'hui, hein, la science fait des progrès, mais bon, on n'y est pas encore arrivé. Autre sens. Et certainement celui que Jésus veut amener. Quand il parle de renaître d'en haut, il parle d'une naissance qui vient d'en haut. Alors, on va essayer de l'expliciter quand même. C'est-à-dire l'acte particulier d'une naissance, non plus humaine, autrement dit biologique, mais d'un tout autre genre, qui touche à l'âme de la personne, que l'on appelle aussi, dans la Bible, l'esprit. L'un ou l'autre peut d'ailleurs suffire. Jésus ici parle d'un renouveau qui nécessite une aide extérieure. Une aide dont l'origine est céleste. Elle vient d'en haut. Car elle implique quelqu'un. Elle implique Dieu lui-même. Et c'est là que réside ce que d'ailleurs dans notre verbiage nous aimons à dire la grâce. Le don de Dieu, ce cadeau qu'il veut nous faire, le fait qu'il désire intervenir dans nos conditions d'homme ou de femme, pour nous aider aujourd'hui dans notre vie. Car malgré nos efforts à vouloir faire le bien, je prends juste cet exemple, chacun d'entre nous d'ailleurs, nous ne parvenons que trop souvent à l'échec. Nous nous y prenons mal, nous voulons féliciter, nous le faisons mal. Nous espérons dire quelque chose et nous souvent nous blessons, nous restons maladroits. En raison de nos défauts, de nos traits de caractère qui sont parfois pas si glorieux que ça. C'est pourquoi il est venu lui-même se faire connaître à nous, ce Dieu-là, par Jésus, son propre Fils. Et aujourd'hui, son Esprit, l'Esprit de Dieu, se tient prêt, lui, à, alors excusez-moi de l'image, mais à toquer à la fenêtre de notre cœur. À la fenêtre de notre âme, si vous le préférez, pour se faire connaître à nous, car son plus grand désir, c'est celui-là. Il veut faire la même chose qu'il a faite avec Nicodème. Il désire que nous puissions apprendre à le connaître, que nous puissions nous lier avec lui. Et lui désire se lier avec nous par un lien fait d'un amour vrai, un amour solide, un amour indéfectible. Car il désire nous bénir au quotidien, il désire notre bien chaque jour, dans ce qui est important pour nous. Et à ce sujet, il est d'ailleurs intéressant de voir comment Jésus lui-même va en parler, de cet esprit, de celui qui vient devant nous, alors on ne le voit pas, hein, mais qui veut quelque part nous parler de lui. Et Jésus d'ailleurs, quand il vient à parler de l'Esprit de Dieu, il use d'une image très courante dans la Bible pour parler de celui-là. De cette autre personne de Dieu qui veut se faire présent dans notre quotidien. Je vous invite là encore à écouter à nouveau ce que Jésus a dit à ce moment-là. Il use de cette image, alors c'est le dernier verset que nous avions lu, je crois, le vent souffle. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Or, il s'agit là d'une image. Et certes, il n'y avait pas de météorologie poussée avec des satellites dans le ciel à l'époque, mais quand même, beaucoup de gens pouvaient comprendre un peu d'où venait le vent. Donc ne le prenez pas tout à la lettre. Jésus use ici d'une métaphore, d'une image du vent, pour mettre en avant les caractéristiques de l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes et des femmes, par celui qu'on appelle l'Esprit. Ce dernier, tel le vent, se fait souvent discret, invisible, et pourtant sait se faire audible de temps à autre. Il œuvre avec discrétion de manière invisible à tel point que la foi qu'il vient placer dans le cœur, dans l'âme des uns et des autres, est parfois difficile à expliquer, et tout en même temps palpable et véritable. Tout à l'heure, je crois, on l'a un peu entendu dans les témoignages, et d'Anaïs et de Naomi. Il n'y a pas forcément un moment où on peut dire « Boum, il y a un truc qui m'est tombé, je l'ai reçu, le colis m'a été livré, je sais que c'était ce jour-là, j'en ai même l'attestation par la poste. » Bon, bref. Hein. C'est parfois beaucoup plus léger, beaucoup moins soudain. Parce que justement, cet esprit-là, ce Dieu-là, vient et agit, sans qu'on ne s'en rende compte. Autrement dit, difficile de pointer du doigt un moment précis où la foi, ce don même fait par l'Esprit, a jailli dans la vie de beaucoup d'entre nous. Car tel le vent, il nous est difficile d'en dire plus quant à son action. Parfois, ce n'est même qu'après que nous pouvons en parler, bien après. Difficile de comprendre dans quelles circonstances il a agi dans le cœur d'une sœur, d'un frère, d'un jeune enfant, comme d'un vieillard d'ailleurs. Car comme le dit Jésus, tel le vent, il agit selon son bon vouloir. Et il n'est point assujetti aux hommes. Ce n'est pas un garçon qu'on commande en disant « une petite bière s'il vous plaît » et puis tout d'un coup l'Esprit vient et vous sert ce dont vous avez besoin pour vous rafraîchir dans le cœur. Non. Même si nous pouvons aussi lui parler, même si nous pouvons aussi lui demander secours. Toutefois, nous pouvons être témoins de son œuvre en nous. Car sa présence, dans le cœur de ceux qui l'ont reçu, dans l'âme de ceux qui l'ont reçu, fait naître en nous des fruits qui sont les marqueurs d'une vie transformée et qui continuent d'être transformés. On ne devient pas du jour au lendemain un espèce de super-héros. Hein. Gagnez pas une nouvelle cape, des super-pouvoirs, rien de tout cela. Mais nous vivons une vie transformée, une vie nouvelle qui nous pousse plus que tout à aimer nos prochains avec la radicalité de l'amour que Jésus a lui-même manifesté à l'humanité entière. C'est là où, quelque part, Dieu veut nous transformer plus encore. Il nous invite à aimer ceux qui sont autour de nous, ceux qu'il nous confie, ceux qu'il nous amène à rencontrer, et de les aimer comme lui nous aime. Car c'est vraiment cela qu'il veut faire le plus en nous. Et cela peut toucher à tout ce qui est notre personne. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, ce matin est un temps particulier où nous venons honorer Dieu, comme à notre habitude, le remercier pour ce qu'il est, mais aussi pour son œuvre fidèle et patiente pour 4 personnes parmi nous. Aujourd'hui, vous tous, en tant que témoins privilégiés, nous sommes invités à accueillir ses frères et ses sœurs en Jésus, en raison de la foi qui leur a été donné par son don libre et gracieux, fruit de l'action de ce même esprit dont Jésus parle ici. Aujourd'hui est une grande joie pour beaucoup en ce jour béni, mais ce jour est une grande joie car nous recevons le cadeau de 2 sœurs et de 2 frères dans la foi. Certains sont des proches, des tatas, des grands-mères, des parents surtout, mais aujourd'hui en plus, parce que vous avez déjà certainement donné autrefois votre cœur à Dieu, votre vie, vous recevez aussi en cadeau un frère, une sœur, qui est parfois aussi cette fille, cette petite fille ou ce fils. Quel beau cadeau que celui-là! Un cadeau pour lequel nous sommes invités, bien évidemment, à veiller et prier pour chacun d'eux. Mais avant de les accueillir, nous allons répondre à leur demande d'être baptisés. car cette demande, ils l'ont faite il y a déjà quelque temps, et aujourd'hui, elle va être accomplie. Par cette demande qu'ils ont formulée chacun, ils ont déjà répondu à l'invitation, à l'ordre de Jésus de manifester leur foi publiquement par ce beau symbole.
Je me permets, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas trop la manière dont nous pratiquons ce baptême, de donner une petite explication ce matin. Car qu'est-ce que le baptême ? Si ce n'est ce signe visible, ce que nous allons faire là, ce signe visible de l'engagement chrétien envers Dieu. Par le baptême, le chrétien s'engage publiquement à suivre Jésus, celui que nous appelons aussi d'ailleurs Seigneur. Ça dit qui il est pour nous. Il est celui qui règne dans ma vie. Alors ici, nous avons aujourd'hui un président, parce que l'ancien roi, quick. Mais bon, c'est l'image que nous avons gardée, car elle vient de la Bible, et à ce moment-là, il y avait des rois. Peut-être il y aurait eu des présidents, on aurait dit, à celui qui préside dans ma vie. Mais bon, peu importe, ce sont là des tournures. Par le baptême chrétien, effectivement, ils vont pouvoir dire cela tout à l'heure. Et le chrétien, par cet acte, par ce baptême, s'engage à dire aussi qu'il désire le suivre, qu'il désire le servir, qu'il désire lui obéir, et tout simplement, ou pour le résumer, à être disciple. Un disciple, c'est quoi ? Le mot peut faire peur, mais quand on regarde à la langue d'origine, ça veut dire celui qui suit. Celui qui voit en quelqu'un, quelqu'un qui en sait plus que lui, un maître, celui qu'il désire vraiment imiter presque, et se dire, c'est lui que je veux vraiment imiter. Donc voilà, c'est cela, être disciple. Et dans cette communauté baptiste d'Antony, comme dans beaucoup d'autres communautés protestantes comme la nôtre, nous pratiquons un baptême dit par, attention au grand mot, mais il n'a rien de compliqué, par immersion. Peut-être que certains parmi nous, d'ailleurs, amis, collègues, parents invités, sont un peu perplexes ce matin à ce propos. Alors, je repose une dernière question. Pourquoi nous agissons ainsi ? Qu'est-ce que c'est que ce baptême par immersion ? Parce qu'il y en a d'autres. Parce que c'est selon toute évidence, pour nous, ainsi que les premiers chrétiens pratiquaient le baptême. Le baptême par immersion garde pour lui le symbole biblique, celle de l'identification du croyant, c'est-à-dire nos quatre baptisés de tout à l'heure, de leur identification à la mort et à la résurrection de Jésus. J'explique cela un peu plus. Eh oui, l'eau du baptême qui est là n'évoque en aucun cas un bain qui lave ou purifie. D'ailleurs, je ne vais pas leur donner de savon, d'après-shampoing, tout ce qu'ils veulent, mais ils ne l'auront pas. Ça sera juste de l'eau, point barre. Ils seront mouillés et rien de plus. S'ils étaient un peu sales avant, ils le resteront, je veux dire physiquement. S'ils étaient propres, de toute façon, ils ne seront pas plus propres. L'eau du baptême ne sert donc pas à nous laver, et physiquement, et non plus à nous laver de nos fautes, de celles qui souillent l'intérieur de notre existence. Non, l'eau du baptême ici évoque plutôt, alors ça va peut-être en effrayer quelques-uns, un enterrement. Bon, on enterre rarement les gens dans l'eau, hein. Entendez bien, c'est une image. Explicitez-le encore un tout petit peu. L'immersion, le fait de les plonger dans l'eau du chrétien est une image de sa mort à son ancienne vie, celle qu'il a jusqu'ici ou presque vécue en l'absence de cette relation avec son Dieu. Quant au fait, parce qu'on ne va pas les laisser dans l'eau, hein, je ne tiens pas à les noyer quand même, même si je vais singer un tout petit peu cela, mais l'espace de 2 secondes, donc ils survivront. Quant à leur sortie de l'eau, puisqu'ils vont être plongés et en ressortir, la sortie, elle aussi, est une image importante, celle de la vie nouvelle donnée en Jésus. Ils meurent et ils ressortent vivants, mais de nouveau, d'une vie nouvelle. Ceci n'est d'ailleurs ni plus ni moins ce que Paul, un auteur prolifique de la Bible, il a écrit plusieurs livres qu'on appelle d'ailleurs plutôt épîtres ou lettres, a déclaré lui-même, notamment quand il s'est adressé à des gens qui partageaient une même foi dans la ville de Rome. Donc ce qu'on appelle parfois plus communément, l'épître aux Romains. Et entendez ce qu'il dit, je finis sur ces paroles-là. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Voilà ce que nous allons manifester. Voilà ce que va signifier maintenant le baptême qui va se vivre pour chacun d'entre eux. Et je vais les inviter d'ailleurs tour à tour, alors ça va commencer par ces messieurs, à se préparer à me rejoindre. D'ailleurs, moi, je dois aussi légèrement me préparer. Donc voilà, je sais que la famille, peut-être pour certains, vont souhaiter s'avancer. Je vous laisse voir au mieux, pour quelques plus jeunes, et puis ceux qui désirent peut-être immortaliser la chose, voyez aussi peut-être à vous approcher avec, bien sûr, discrétion.